Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouverons tout le long de l'année afin de pouvoir découvrir, sensibiliser autour de tous ces écosystèmes qui nous entourent, que ce soit l'écosystème de la haie, de la mare, que ce soit pour parler d'oiseaux, de mammifères, de pistage animalier, en tout cas vous l'aurez compris, de pouvoir parler de la biodiversité. L'idée, c'est de pouvoir vous faire mieux connaître votre environnement afin de mieux le protéger. C'est ma mission depuis plus d'un an et demi avec mon entreprise et mes interventions auprès des écoles, des communautés de communes, des centres de loisirs et de tous les publics qui me suivent jusqu'à présent. Terre commune animée par Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous allons parler de l'arbre mort. Je dirais même plus l'arbre flûte. C'est Alexis, le fils de Rémi Castagnier, que vous entendez tous les 15 jours avec l'émission Allo Frelon, qui m'a donné ce petit surnom un petit peu d'arbre flûte. Je la trouve très imagée. De voir un petit peu ce tronc d'arbre que nous connaissons rempli de trous et qui pourrait justement, si on appuie dessus avec nos doigts, on pourrait peut-être faire de la musique ou ce genre de choses. En tout cas, je trouve ça assez parlant comme image. L'arbre mort, pourquoi j'ai voulu en parler ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un immeuble à biodiversité. C'est vraiment un endroit qui regorge de vie, qu'elle soit animale, végétale ou fongique même. C'est vraiment l'endroit qu'on a tendance à vouloir éradiquer de nos forêts, de nos jardins, de nos parcs, alors qu'en fait, eh ben, si on les laissait tranquilles, nous pourrions avoir vraiment une diversité animale et végétale, comme je le disais, bien plus développée. Souvent, on se dit qu'il manque d'oiseaux, il manque de plus en plus d'insectes et ainsi de suite. Les causes sont diverses, mais de pouvoir aménager, en tout cas de pouvoir laisser cet aménagement totalement naturel dans son jardin, dans son parc, dans sa forêt, dans ses bois et que sais-je encore, ça pourrait permettre vraiment de protéger et d'aménager un espace ultra sécuritaire pour toute cette petite faune et cette flore. Donc, en quoi l'arbre mort est important dans tout ça ? Déjà, il faut parler de la lenteur de la vie des arbres. Comme chacun le sait, on a quand même des arbres qui vivent jusqu'à des centaines, plus de centaines, voire des milliers d'années. Mais souvent, on parle de leur vie, mais on ne parle pas de la lenteur de leur mort également. Un arbre prend des centaines d'années avant de mourir. Nous sommes tous et toutes en lien avec des arbres autour de chez nous, dans notre jardin par exemple, ou même dans notre salon, quand nous avons des plantes ou des arbres en pot. On est déjà face à des arbres qui sont en train de mourir. C'est un cycle naturel. Et ces arbres morts, souvent, on a envie de pouvoir les améliorer, les éradiquer. On se dit que ça peut être sale, alors qu'en fait, c'est plein de vie. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu en quoi c'est important. Bon, déjà, qu'on soit d'accord, si dans votre jardin, vous avez un arbre avec des branches qui sont pendantes au-dessus d'une toiture ou même qui pourraient tomber sur quelqu'un, évidemment, je ne vous conseille pas de garder un arbre mort qui puisse vous tomber dessus. Qu'on soit bien d'accord. Moi, ce que je vous parle là, c'est vraiment de pouvoir avoir un arbre vraiment qui nous mette en sécurité. J'ai un exemple assez concret dans mon jardin. Au fond de mon jardin, j'ai un vieux frêne qui effectivement est creux, qui avait des branches qui commençaient à s'effriter. J'ai préféré du coup tailler ces branches presque, je dis bien presque, jusqu'à l'encablure des branches principales et secondaires pour garder en fait vraiment ce totem avec ces mini branches qui partent à droite et à gauche. Donc là, je suis en sécurité, en tout cas, moi et ma famille sommes en sécurité autour de cet arbre-là. Et également, toutes les espèces qui pourraient vivre dedans, ou en tout cas qui pourraient y venir. Je vais vous parler notamment, et là pour l'instant je vais vous parler d'animaux, en tout cas de quelque chose d'assez concret. On va parler par exemple des oiseaux. Dans un arbre mort, on le sait tous, il peut y avoir des creux, des recoins, il peut y avoir des trous, et vous n'êtes pas sans savoir que dans ces trous, nous pouvons trouver, par exemple, des chouettes hulottes ou voire des chouettes effraies. Donc on parle essentiellement ici de rapaces nocturnes. On sait que ces espèces-là sont en forte diminution en France, dû au fait qu'elles n'ont plus d'habitat. Alors pour la chouette effraie, elle s'est accommodée, on dit qu'elle est synanthrope, en tout cas qu'elle s'est habituée à vivre avec nous les humains. Donc elle s'est rapprochée, s'est mise dans des clochers, dans des greniers et encore d'autres habitations. Mais son habitat naturel est évidemment, ce sont les arbres creux. Alors c'est pareil pour la chouette hulotte qui, elle, n'est pas venue comme sa cousine très proche des habitations. Mais par contre, effectivement, elle continue à rester en forêt, dans les parcs et tout ça à l'abri dans les trous des arbres. Justement, c'est pour ça qu'il est très très important de pouvoir garder ces arbres autour de nous. Une chouette hulotte ou même une chouette effraie, un couple, on parle à peu près de 3 à 4 000 rongeurs mangés par an. Donc très utile pour la dératisation, totalement naturelle. Je vous parlerai également d'autres petits oiseaux, un petit peu plus de la famille des passereaux. Cette fois-ci, on va parler de la sittelle torchepeau. Ce petit oiseau tout petit, qui a cette couleur un petit peu violette cuivrée au niveau de la gorge, avec un masque noir et un bec très pointu. C'est un oiseau qu'on retrouve souvent, qu'on arrive à identifier et qu'on voit souvent sur le tronc des arbres, qui va monter et descendre grâce à ses genoux articulés. Et celle-ci, elle est cavernicole. Comme une de ses autres cousines, la huppe fasciée, cet oiseau africain qui reste de plus en plus chez nous passé l'hiver, ou qu'on retrouve en tout cas au printemps et en été, qui a une grande huppe sur la tête, d'où son nom. Les choses sont bien faites. Et donc du coup, ces oiseaux-là, ils sont cavernicoles, donc ils ont vraiment besoin d'aspérité, ils ont vraiment besoin de trous autour d'eux pour pouvoir faire leur nid et se protéger tout simplement. Ce sont des oiseaux justement qui vont manger des insectes qui vont se trouver dans le bois mort également. Donc en fait, c'est un petit peu le gîte et le couvert directement sur place. Je vous ai parlé des oiseaux, mais on peut parler également d'autres animaux comme la martre des pins ou même l'écureuil qu'on connaît bien, voire même les chauves-souris qui vont habiter dans tous ces endroits-là. Tous ces aspérités, tous ces trous. Alors, je vais parler un petit peu plus des chauves-souris qui, elles, sont donc des mammifères volants et les seuls au monde à être volants, mais surtout ces mammifères qui vont être nocturnes. Et il est bien connu depuis quelques années que ce sont de grandes mangeuses de moustiques. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de garder cet arbre au fond du jardin. Elles peuvent en manger jusqu'à 3000 facilement sur tout un été. Donc quand on parle de moustiques, on est quand même sur des nuisibles, comme le dirait Rémi Castagnier. Et là, nous avons un ami au fond du jardin, cet arbre mort qui peut abriter toutes ces chauves-souris sans pouvoir nous embêter ou dépenser des 1000 et des 100 à faire en sorte de les faire venir. Et puis, je rappelle quand même qu'il est très difficile de garder des chauves-souris dans des nichoirs autour de chez soi, suivant l'exposition, suivant la hauteur, suivant l'humidité de son gîte. Nous aurons également dans tout ce bois mort, effectivement, nous aurons tous les détritivores du bois, donc c'est-à-dire toutes les insectes et les petites bêtes. Je vais parler par exemple de la limace qui va venir se réfugier à l'intérieur des aspérités du bois, mais aussi des lucanes cerf-volants, ce gros coléoptère, le plus gros que nous avons en Europe. Ce gros coléoptère bien noir avec ses mandibules, en tout cas ce ne sont pas des mandibules, ce sont des défenses, d'où son nom le cerf-volant, avec ces espèces de cornes qu'il a à l'avant de la tête, qui lui servent pas à manger, comme pourraient servir les mandibules, mais par rapport à la reproduction chez cette espèce-là. Ce sont des, comme chez les cerfs élaphes, ce sont des attributs qui leur permettent de se battre et de conquérir le cœur des femelles. Donc c'est un insecte qui fait de grosses larves et qui va effectivement manger le bois mort à l'intérieur. Alors je tiens juste à le dire quand même que ce sont des insectes qui mangent le bois, mais que lorsqu'ils pondent dans le bois est déjà pourri, est déjà mort, hein, qu'on soit bien d'accord. N'éradiquons pas cet insecte qui est en voie de, vraiment de, pas de disparition, mais en tout cas qui n'est pas sur une bonne circulaire autour de nous, quoi. Donc on en voit de moins en moins, c'est un fait, comme pour tout le reste. Et une fois encore, hein, je le répète, mais c'est grâce au fait de laisser le bois mort que nous pouvons en voir et continuer à en voir. Nous avons un autre insecte, un petit beaucoup plus rare, notamment dans notre région, mais qui peut être là, qui fait partie également de la famille des coléoptères. Et là, je vais vous parler de la légendaire Rosalie des Alpes. C'est un insecte, un grand insecte de la famille des longicornes, comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que ça a un corps très long, très allongé, avec de longues antennes un petit peu annelées, et qui a une couleur magnifique, avec un bleu presque turquoise et tacheté. Et c'était vraiment un insecte qui est en voie de disparition pour celui-ci, en tout cas en France. Alors on l'appelle la Rosalie des Alpes, hein, mais on ne la trouve pas que dans les Alpes. Par contre, vraiment, les bois morts, les arbres morts, c'est vraiment son habitat de prédilection. En tout cas, c'est là où elle va pondre ses œufs, où les femelles vont pondre ses œufs et pouvoir se développer. Alors on a parlé des insectes, des petites bêtes, hein, on pourrait encore parler de plein de choses. Je parlerai aussi d'un animal, en tout cas avec un grand A, on va parler d'un amphibien, qui est le triton. Alors ici dans la région on est plutôt sur des tritons marbrés, qui sont des amphibiens, donc comme je le disais, qui vont essentiellement vivre en forêt et dans le bois mort, contrairement à ce qu'on pense souvent. On dit, mais Anthony, c'est souvent, enfin, on a besoin de mares ou de points d'eau pour pouvoir faire en sorte que ces habitants, ces tritons puissent vivre. Et bien en fait, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que les mares et les points d'eau vont être vraiment l'endroit où les tritons femelles vont pondre leurs œufs et les larves vont se développer. Mais ce n'est pas, en tout cas, l'endroit où ils vont vivre à l'état adulte. Ça sera plutôt dans les sous-bois, dans les forêts et notamment dans les troncs d'arbres qu'on peut trouver au sol tombé ou dans les troncs d'arbres justement encore debout et que nous pouvons laisser facilement au fond du jardin ou dans notre bois si on le souhaite. Voilà pour toute cette partie, on va dire, animal. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec une musique que j'aime bien, de Tom Frager de Tikenja Fakoli, et qui s'appelle « Je tourne en rond ».
Ça fait longtemps que je tourne en rond, que je cherche des réponses à mes questions. Que faut-il faire pour respirer de l'air sain? Que faut-il faire pour un meilleur lendemain? Je ne parle pas couramment la langue de bois, tu vois, je n'entends plus les longs discours. Dis-moi pourquoi on tourne autour. On dirait que le monde a cessé de penser. On dirait que c'est chacun de son côté. C'est chacun pour soi, ouais, on laisse à nos enfants ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète n'est pas ok. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Ouais, on laisse à nos enfants ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète les inquiète, mais y a-t-il quelqu'un qui le
Africa. Oh mama, écoute-moi. Hey Africa, montre-la que tu es là. Mama Africa, tu n'es plus là du silence. Mon Africa, c'est maintenant, saisis ta chance. On dirait que le monde a cessé de penser. On dirait que c'est chacun de son côté.
C'est chacun pour soi, ouais, on laisse à nos enfants ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète n'est pas ok. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? On laisse à nos enfants ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète les inquiète, mais y a-t-il quelqu'un qui le sait? Tu penses, change pas la donne au fur et à mesure que tu avances. En faisant face aux conséquences, n'est plus le temps des belles promesses, mais celui de la dernière danse. Écoute bien ta planète, elle a le cœur qui palpite avant qu'il ne s'arrête sous un océan de plastique. Je me dis qu'il est temps de semer de l'espoir dans le jardin de leurs pensées. On laisse
l'enfant, ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète n'est pas ok.
Y a-t-il quelqu'un qui le sait? On laisse à nos enfants ce qui s'est passé. Ce qu'on fait de la planète les inquiète, mais y a-t-il quelqu'un qui le sait?
Et vous êtes de retour dans l'émission Terre Commune, une émission bimensuelle que vous retrouverez ici sur CFM Radio. Je suis Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaris Terra et nous avons parlé précédemment de l'arbre mort. Alors effectivement, j'ai parlé de cet arbre mort qu'on peut avoir au fond du jardin, qu'il soit debout ou même qu'on laisse des troncs couchés sur le sol. Hein. C'est quelque chose qui est complètement possible si on n'a pas la possibilité de les avoir bien debout, bien droit, tels des jolis totems qui mettent en avant, je trouve en tout cas, nos jardins. Je trouve ça très beau à voir. Je trouve ça très beau à voir parce qu'en fait, on a parlé du côté animal, mais aussi il y a tout le côté végétal et fongique qu'on peut retrouver sur un arbre mort. On va parler effectivement des mousses, mais on a également des lichens qui sont dessus. Alors, je ne sais pas si vous êtes très commun avec le lichen, mais grosso modo, le lichen, c'est un mélange savant et farfelu entre un végétal et un champignon. Donc en fait ça fonctionne comme ça, on a le champignon qui lui ne peut pas vivre grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire grâce aux rayons du soleil et ainsi de suite, il n'arrive pas à gérer ses molécules, en tout cas à les transformer, et à la fois la mousse elle n'arrive pas à se nourrir justement des minéraux dont elle aurait besoin. Donc il y a une association vraiment parfaite entre ce champignon et ce végétal qui fait que l'un apporte la photosynthèse et l'autre apporte les sels et les minéraux dont elles ont besoin. Ces lichens, qui sont plus d'une 500 espèces qu'on peut avoir facilement autour de nous, en tout cas en France et en Europe, ces lichens vont pouvoir abriter plein de micro-organismes, des petites bêtes qui vont permettre de nourrir des oiseaux et ces oiseaux qui vont permettre de nourrir des plus grands animaux, une bonne chaîne alimentaire comme la martre des pins par exemple qui peut de temps en temps manger un oiseau ou en tout cas un rongeur également qui va se cacher dans notre arbre mort. Donc on a parlé de ces végétaux, on a également ce grand règne qui sont les fungi, donc c'est-à-dire les champignons. Et ces champignons, on va en avoir différents hein, sur le bois mort hein, qui vont réussir à le décomposer. Alors on parle de champignons qui vont être saprotrophes. qui vont donc décomposer la matière. Et on va pouvoir retrouver un de mes préférés, en tout cas qui est très bon à manger, ça va être le polypore soufré. C'est un, donc comme son nom l'indique, polypore qui va avoir donc sous le chapeau vraiment des donc l'hyménium. L'hyménium, attention, c'est un mot bien scientifique chez les mycologues, mais qui se retrouve sous le chapeau. Bah, c'est chez par exemple les cèpes, on va trouver des tubes, des petits points, ou chez les girolles, des lamelles. Et ben là, donc là, chez les polypores, on va avoir encore comme chez les cèpes, on va avoir ces petits points là qu'on va retrouver, ces tubes. Et chez le polypore soufré, ce qui est intéressant, c'est que c'est un très bon comestible, et surtout c'est un très bon comestible qui a le goût et la texture du poulet. Voilà, donc pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est une très bonne alternative, et c'est un très bon décomposeur du bois. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va décomposer le bois, mais il va le faire très lentement. Parce que ben, sans arbre mort, il n'y aura pas de champignons. Donc il y a quand même une nourriture qui se fait, il y a une décomposition qui se fait, mais très lentement pour garder un maximum le bois, l'arbre mort bien droit et un maximum vers, on va dire, vers la surface pour qu'il puisse quand même avoir les rayons du soleil et se développer correctement. Et dans le bois mort, on va en trouver un autre qui, alors, ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais je parle bien du Physarum polycéphalum, qu'on va appeler plutôt le blob, qui lui va se développer, donc pareil, hein, sur les arbres morts, et donc proliférer dans cet endroit, dans cet écosystème. Donc vous l'aurez compris, j'ai peu de temps pour vous expliquer toute la vie qui se passe autour d'un arbre mort et dans un arbre mort, mais vous aurez compris quand même qu'il y a une diversité énormissime. J'aurais pu vous parler encore de la genette commune qui niche également dans l'arbre. J'aurais pu vous parler des rongeurs, des papillons qui viennent faire leur chrysalide, de vous parler des couleuvres à collier qui viennent s'y protéger également l'été quand il fait bien chaud. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que quand même, un arbre mort ou de laisser de l'arbre mort chez soi, c'est quand même assez incroyable pour la diversité et la biodiversité qui nous entoure. Alors, nous avons pu parler aujourd'hui de l'arbre mort. Nous parlerons de bien d'autres thématiques. Nous sommes avec Rémi Castagnier en lien chaque semaine pour pouvoir rebondir d'une émission à une autre. Lui sera, comme je vous l'ai dit en début d'émission, sera plus sur l'aménagement, les petites histoires, les petites tustes pour pouvoir aménager la biodiversité chez soi, qu'on ait un jardin, un balcon ou que sais-je encore. Et pour ma part, je vous parlerai justement de un peu plus en détail en quoi c'est important de garder ces petits lieux naturels et en quoi certaines espèces animales sont très importantes pour notre environnement. Alors merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes de parler de nature et de biodiversité. Si jamais vous avez des questions ou autre chose concernant l'émission et ce que j'ai pu en dire, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux Vulgaris Terra, donc V-U-L-G-R-I-S, plus loin Terra, T-E-2-R-A. Vous pourrez trouver justement mes contacts pour pouvoir me poser des questions ou me proposer même des sujets ou des choses à mettre en avant. N'hésitez pas à aller voir également mon site internet vulgaristerra.fr où vous trouverez différentes balades que je propose sur l'ouest de l'Aveyron à la découverte de notre biodiversité. Merci en tout cas à toutes et à tous de m'avoir écouté. La semaine prochaine, vous pourrez entendre et écouter Rémi Castagnier avec son émission Allo Frelon. Et vous pourrez me retrouver d'ici 15 jours. En attendant, je vous remercie et ciao, bye.